Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et maintenant, j'accueille Émilie Boyer qui est avec moi en studio et juste vous dire que le moment qu'Anouchka est partie, Émilie est rentrée, elle est deux là. Il y a déjà une relation parce qu'ils ont fait l'âge des possibles, mais ils n'ont pas été ensemble dans l'émission. Il y avait plusieurs enfants, là, différents, avec différents types de handicap. Mais on le voit que il se passe quelque chose entre vous deux, là, les deux, là, blablabla, ça jasait, ça jasait. Et je savais même pas que vous vous connaissiez. Donc là, je suis contente parce qu'on va en rencontrer une autre belle jeune qui a 17 ans.
Oui.
Et toi aussi, tu as une situation d'handicap visuel qui est quand même assez récente, hein?
Oui, vraiment.
C'est ça. Donc, toi, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Bien, ça a commencé février 2024. J'écoutais la télé, c'était le soir.
Oui.
Et un moment donné, je faisais juste m'appuyer ma main sur mon œil droit, ce qui a mon œil gauche, je veux dire.
Mm-hmm.
Ce qui a fait que ça l'a comme fermé, normalement, tu sais.
Oui.
Mais j'ai remarqué que je voyais comme mal dans cet œil-là, puis je comprenais pas. Donc, je me suis dit, hey, ça doit être la fatigue.
Oui.
Parce que c'est le soir, il est tard. Fait que
oui.
Je suis allée dormir, j'en ai pas pensé. Un mois plus tard, on est rendu genre en mars, puis là, je le refais, puis là, je suis comme, OK, là, il doit avoir quelque chose parce que c'est quand même bizarre que ça soit là. Fait que là.
Mais qu'est-ce que tu veux dire, dans le fond, qu'un mois plus tard, c'est que toi, ça fait un mois que tu vois qu'il y a quelque chose dans tes yeux, mais t'en parles pas?
Ben pas nécessairement, parce que moi, je pensais vraiment que c'était juste comme de la fatigue. Parce que quand je regardais comme normalement mes yeux, les deux ouverts, je voyais normalement, parce que mon œil gauche compensait pour l'œil droit.
Oui.
Donc, au début, genre vraiment, on savait vraiment pas.
Mm-hmm.
Ça a vraiment pris du temps avant que mon deuxième œil, le gauche, aussi devienne malvoyant. Fait en fait,
okay.
Ouais.
OK. Donc, c'est là que ça a été plus facile parce que, pour le voir, parce que là, tu n'avais pas un œil qui compensait.
C'est ça. Puis, okay. J'en ai parlé à mes parents. J'ai dit, j'aimerais ça avoir un rendez-vous à l'optométrie parce que, je sais pas, peut-être que je commence à moins bien voir de loin,
mm-hmm,
ou de proche. J'ai,
mm-hmm,
aucune idée. Fait que là, on y va. Puis là, je fais des tests et tout. Puis la madame, elle arrive, elle me dit, ben, tu es avec de l'œil droit.
Oh!
Sec.
J'suis de
là,
même.
Oui, de même. Je suis là. Pardon, quoi?
Ouais.
Je m'y attendais pas. Moi, j'étais là, ça serait avec des lunettes, c'est tout. Mais non, elle était là, ouais, c'est ça. Si tu veux, je peux te faire une référence pour que tu ailles au Children en ophtalmologie pour que tu fasses plus de tests pour savoir c'est quoi qui se passe. Fait que j'étais comme, ouais, ben oui,
ben
c'est
oui,
sûr.
Ben oui.
Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on est rendu en été parce que quand j'ai enfin eu mon rendez-vous, c'était en juin. Fait que
ça fait longtemps.
Ouais,
ça fait déjà tout l'hiver finalement.
Oui, genre vers la fin de l'hiver, printemps, puis le début été.
Fait
que là, moi, je voyais encore bien. J'étais quand même encore capable de bien lire.
Oui.
Donc, pour moi, je comprenais vraiment pas parce que j'étais là, pourquoi je serais aveugle si je vois bien? Puis moi, dans ma tête, quand t'es aveugle, tu vois juste
oui,
rien. Mais
oui.
Là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait vraiment des nuances. Là. Moi, je suis dans la nuance grise.
Oui.
Donc là, tout l'été, je travaillais au camp de jour de ma ville. Puis là, je passais des tests, puis à un moment donné, j'ai fait un IRM.
Mm-hmm.
Puis moi, ce qui est spécial avec un IRM, c'est que je m'endors dedans ça. Puis pourtant, il y a plein de bruit.
Hein?
Je me suis endormie.
Oh mon Dieu, comme vraiment. Le chantier de construction, là.
Genre, ouais.
En termes de bruit, là, ils appellent ça souvent de même un chantier de construction, là, parce,
mm-hmm,
que ça fait du bruit, là.
Ben c'est ça, mais
okay, toi,
j'étais vraiment fatiguée. Ouais, j'étais tellement fatiguée que j'étais là. Hey,
mais t'es
on va
pas
se reposer.
Claustrophobe non plus, hein?
Non, je le suis pas.
Parce que ça, c'est un tube que tu,
ouais,
rentres et si tu as la panique des petits espaces, c'est sûr que tu dors pas, là.
Non, ouais, c'est sûr. Ouais. Ma mère allait, puis je suis contente de pas l'être
ben,
aussi.
Ben, c'est ça. Mais là, toi, tu t'es endormie,
ouais,
là-dedans, mais là, eux...
Ils faisaient des photos de...
Ils font des photos de tes,
ouais,
yeux.
Ben, en fait, ils l'ont fait sur tout mon corps parce qu'ils se sont dit peut-être qu'il y a quelque,
ah,
chose d'autre. On va faire un check-up de tout, de,
oui,
partout pour être sûr.
Oui.
Là, après ça, je retourne chez moi et tout. Puis vers la fin du mois, mi-juillet, je reçois enfin les réponses. Puis là, il dit que j'ai une inflammation dans ma colonne vertébrale et en arrière,
oh,
de mes yeux.
OK.
Fait que là, on se dit, ah, oh, peut-être c'est ça. Il faudrait que...
La colonne?
C'est ça, la colonne vertébrale. Il y avait de quoi.
Oui.
Et en arrière de mes yeux. Fait que là, on s'est dit, ah, oh, c'est peut-être ça. Fait qu'on va le traiter. Fait que j'ai passé un séjour long à l'hôpital. Puis...
Combien de temps?
5 jours à peu près.
Et ils font mais quoi pendant ce temps-là?
Ils ont fait plein de tests. Fait que genre le premier okay. jour, comme le soir, comme en fait, le jour qu'ils m'ont dit les tests, ils m'ont dit « faut que tu passes un séjour à l'hôpital ». Moi, j'avais rien, j'étais même pas prête à ça. Fait que j'étais là « OK, on y va ». Puis là, il m'arrive dans les urgences, puis là, il me dit « il faut qu'on te fasse une ponction lombaire ». Puis pour les gens qui ont fait des ponctions lombaires dans leur vie, vous savez que c'est horrible.
Ça, c'est douloureux, hein?
Vraiment.
Mais oh boy!
Comme moi, ils m'ont dit « on va te mettre
une chose comme pour un petit quelque chose, ouais, c'est, oui, ça, c'est ça, mais c'est pas vrai.
J'ai tout senti, mais tout senti, ça fait mal. Puis à chaque fois, il envoyait une autre personne parce qu'ils l'ont refait plusieurs fois. J'étais là « OK, on va le faire, ça va être fini. » Mais là, à chaque fois, c'était comme... Il disait toujours « c'est la meilleure personne, il va être capable de le faire. » J'étais comme « OK, on va le faire.
Ouais.
On continue. Je vais souffrir, mais tant que c'est fait, ça va être fait. Il faut le faire de toute façon. » Puis là, après, la troisième fois, j'étais là « OK, non, je peux plus. »
T'en as eu plusieurs?
Oui, j'en ai eu plusieurs. À chaque fois, ça fonctionnait pas. Il allait pas au bon endroit et tout.
Oh, mon Dieu!
Horrible.
Oh.
Fait que là, ils m'ont enfin dit « il y a aussi l'option de avec une caméra. » J'étais là OK. On n'aurait pas pu faire ça, mais ils ont dit non, il y a plein d'affaires à faire pour se préparer à ça. Fait que là, j'ai dû le refaire, mais ça, c'était un vendredi. Puis là, j'arrivais en la fin de semaine, il n'y a rien qui se passe, aucun test. Fait que là, j'étais à l'hôpital à rien faire la fin de semaine. Puis là, lundi, là, on commence à faire plein de tests. On va faire une autre ponction lombaire, on va faire genre plein de tests de sang. On te fait tous les tests qu'il faut pour au moins essayer de déduire
c'est quoi.
Ils pensaient que ça aurait pu être ce que j'ai en ce moment, l'anoplastie optique héréditaire de Leber.
Ouais.
Mais ça,
c'est pas par la colonne qu'ils voient ça, là.
Ben, en fait.
C'est juste parce qu'eux autres, ils voulaient investiguer pour être sûr que t'as pas, exemple, un cancer ou, tu sais, quelque chose plus. Tu sais, c'est ça qui pourrait expliquer.
Mm-hmm. Ben, en fait, avec la ponction lombaire, ils ont pu prendre ce qu'ils ont pris, le liquide qu'ils ont pris, faisait aussi en sorte qu'ils pouvaient retracer généalogiquement
Mais c'est parce que toi, c'est une maladie qui est héréditaire.
Héréditaire.
C'est ça. OK, donc, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent le voir par la...
Oui.
C'est ça, là, au niveau de l'ADN et tout ça, là, les chromosomes.
C'est ça, fait que...
Oui, OK, je comprends.
Ouais. Puis pour ceux qui sont fans d'histoire et tout, fun fact, en fait... on a su que une des filles du roi, ceux qui connaissent l'histoire du Québec, les filles du roi viennent coloniser pour faire les enfants avec les colonisateurs et tout. Puis là, il y en a une là-dedans qui avait ce gène-là. Fait que là, on a pu la retracer jusqu'à elle. Puis là, après, moi, je trouvais ça intéressant parce que j'adore l'histoire.
T'aimes l'histoire. Juste faire une parenthèse, mais c'est ça. T'es vraiment une grande fan d'histoire.
Oui.
Et si éventuellement, un jour, tu peux enseigner l'histoire...
Ça serait good.
Ça serait vraiment... Oui. C'est ça. Ça serait l'histoire que tu aurais enseignée.
Exact. Ouais.
Mais là, quand tu parles de les filles du roi là et tout ça... Est-ce que, dans le fond, vous aviez fait comme la généalogie pour aller voir si, finalement, tu as une branche reliée à cette madame-là?
Ben oui, parce que en fait, dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, il y a différentes mutations. Il y en a comme un peu partout. Puis moi, j'ai la 1-4-4-8-4, je pense, c'est bien exact.
Ouais.
Je pense que c'est celle-là. Et en fait, c'est elle aussi. Elle avait celle-là, fait que là... Ça descend, puis là, personne dans ma famille savait qu'il l'avait. Il y avait une personne qu'on savait qui voyait pas bien, mais lui, genre, il a jamais pu faire les vrais tests, tous les bons tests pour savoir si c'était ça, parce que c'est une maladie très rare. Puis au début, on pensait même pas que c'était possible pour une femme de le développer.
À cet âge-là aussi.
À cet âge-là et tout, c'était des minimes chances et tout. Fait que les médecins, ils pensaient pas que ça aurait pu être ça. Fait qu'au début, ils la mettaient de côté, mais... Ils ont appris que, finalement, autant les hommes que les femmes peuvent la développer, c'est juste que les hommes, ils pensent qu'ils ont plus de chance.
Oui, il y a des maladies comme ça, tu sais, ça va être plus les hommes, d'autres, c'est plus les femmes. Mais toi, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans ta famille, là.
Non, il y en a pas,
c'est dans le sens que
c'est
héréditaire, c'est dans le code de transmission. Mm-hmm.
Ma mère, elle l'a, puis c'est juste qu'elle n'a pas développé.
C'est ça. Mais il n'y a personne qui l'a développé autour de toi.
Non, vraiment pas. Fait que c'était un gros moment de...
Ben oui.
Injustice, j'étais là, pourquoi moi, s'il y a plus de chances pour les hommes, genre j'étais là, mes oncles, pourquoi eux, ils l'ont pas? Fait qu'on a dû aussi prévenir toute la famille au complet, éloignée, pour leur dire comme de faire attention à ça pour aussi faire des rendez-vous pour être sûr qu'ils
aient
un suivi et tout. Fait que là, c'était vraiment un gros, une grosse période de, comme, d'accommodation. Et pour moi, c'était comme vraiment comme, oh my God, je commence l'école bientôt.
Mm-hmm.
Puis on n'a même pas encore reçu les tests parce qu'à ce moment-là, genre, on venait de faire les tests quand j'étais à l'hôpital.
Oui.
Fait que là, quand j'ai commencé l'école, c'était comme fin mois à août, puis c'était au mois d'août qu'on faisait ces mm-hmm. tests-là aussi. Fait que là, moi, j'ai commencé l'école fin d'août, puis là, le 6 septembre 2024, c'est là que j'ai eu mon diagnostic, puis j'ai commencé l'école et tout.
Et là, t'es en quelle année à ce moment-là, secondaire 4?
En secondaire 4, oui.
Mais c'est ça. Donc, t'es en secondaire 4. Toi, t'es au régulier.
Oui.
T'es pas à l'école Jacques Ouellet.
Non.
Donc, t'es au régulier. Là, au régulier, ben là, c'est on a l'étudiante Émilie Boyer qui, tout d'un coup, elle ne voit plus.
Oui.
Donc là, c'est toutes les adaptations qui doivent être mises en place pour que ton enseignement scolaire se passe le mieux possible.
C'est ça, mais comme ce qui est vraiment genre fascinant avec ma vision, c'est que genre moi, c'est vraiment comme la vision centrale que je vois juste vraiment mal.
Oui.
Admettons, je regarde droit devant moi, je vais pas voir les détails d'un visage, je vais pas bien faire la distinction de comme des couleurs quand ils se ressemblent,
mm-hmm.
ou comme tout ce qui est lire, écrire, tout ça, je pouvais pas le faire. Fait que là, encore ça, genre moi, dans ma tête, je capotais parce que j'étais là, OK, je veux continuer l'école, hors de question que, genre, je reste chez moi à rien faire, puis juste pleurer à chaque jour parce que, je me sens pas bien et tout. Fait que là, j'étais comme, je continue ma routine comme ça, genre, je vais rien perdre, puis au pire, je vais juste écouter en classe, puis s'il arrive quoi que ce soit, genre, mes parents me parlaient de comme, si il y a quoi que ce soit, tu réussis pas ton année, c'est pas grave, tu le referas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu continues, tu sois bien mentalement et que, genre, tu te rends le plus loin que tu veux, ça nous dérange pas. Fait que le soutien de mes parents était vraiment énorme là-dedans, mais aussi de mon directeur. Mon directeur est là, ça me dérange pas si tu coules, là. Ce qui est important, c'est toi, comment tu te sens, puis s'il y a quoi que ce soit, genre, tu viens me voir, puis j'ai réglé les problèmes s'il y en a, tu sais.
Mais toi, ça veut dire que tu... t'sais, de 2024, là, dans le fond, là, on te parle de cette maladie-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est dégénératif? Donc, exemple, la vue que tu as en ce moment pourrait dégénérer? Ou c'est comme, maintenant, c'est ça ta vision?
Bien, ils disent que c'est pas dégénératif, mais en quelque sorte, ça peut l'être parce que en fait, la vision va aller comme le plus bas qu'elle va aller. Admettons, il y a vraiment chaque vision va être différente.
Oui.
Il y a des pourcentages de chances de n'en retrouver parce qu'en fait...
D'en retrouver?
Oui, parce que c'est les mitochondries de mon corps qui ont juste... arrêter d'envoyer de l'énergie à mes nerfs optiques.
Ouais.
Fait qu'on peut dire qu'ils sont comme endormis.
Ils sont endormis, oui.
Donc là, la généticienne qui était avec moi m'a donné plein de médicaments, un cocktail de vitamines et tout pour que je prenne à chaque jour.
Comme pour essayer de rebooster.
Rebooster, oui.
Et c'est quoi tu prends comme médicament?
Ouf, j'en ai
Non, mais tu dis, tu sais, comme des vitamines, ça, sûrement, tu sais, de la lutéine, bon.
Ouais, c'est...
Des complexes, des vitamines, là,
c'est
avec...
C'est ça, des complexes, ça. B12, B50, exact. Des affaires comme ça, mais...
Donc, là, exemple, tu prends des suppléments.
Puis je prends...
T'as des gouttes. Des gouttes dans les yeux.
T'as... Non, mes yeux sont vraiment parfaitement en santé, c'est juste...
C'est vraiment le nerf optique. Donc, au niveau plus des terminaisons, finalement, nerveuses. Donc, qu'on mette des gouttes, ça servira pas à rien.
Ça va juste m'aider pour, admettons, si mes yeux sont secs.
C'est ça.
Comme tout le monde, admettons.
Mais sinon, toi, c'est vraiment plus essayer de booster ces vaisseaux-là. Là.
Exact. Puis, il y a un médicament que des chercheurs ont trouvé qui... pourrait aider et qui peut aider. C'est comme vraiment toutes les recherches qu'il y a, c'est comme il y a tellement peu de monde qui l'a et tout que genre on peut pas être sûr à 100% c'est très compliqué. Fait que là, moi au moins ce médicament là je peux le prendre parce qu'il y en a qui peuvent pas le prendre, ça peut leur nuire à leur vision, tandis que moi c'est correct, je peux en prendre puis ça peut m'aider parce que
mais tu vois-tu que depuis que tu le prends, comme exemple depuis la journée que
j'ai commencé.
Oui, mettons, là, tu sais, qu'on te dit, tu as ce diagnostic-là, voici maintenant ta vision versus maintenant. Est-ce que tu es en mesure de dire, ah, j'ai l'impression ici que j'ai un peu plus de vision?
Bien, je pourrais dire, en fait, que ce que les médecins disent, c'est qu'il faut que ça aille mal avant que ça aille bien. Fait que là, ma vision est allée jusqu'au point qu'elle peut être. Genre, en ce moment, elle est comme le point qu'elle peut être à peu
donc,
près.
Donc, toi, ce serait pas une cécité complète.
C'est ça. Elle est stable en ce moment, mais on peut voir des petits changements qui arrivent dans mon œil droit, petit à petit.
Mais minuscule, là.
Minuscule, c'est mais ça. Parce que ça peut être aussi parce que j'utilise bien ma vision périphérique. Mm-hmm. Tu sais, il n'y a rien à 100%. Je me suis adaptée en tellement peu de temps, en un an et demi, que c'est comme presque incroyable tout ce que j'ai, mm-hmm. j'ai accompli en aussi peu de temps.
Bien, justement, là, ta vision, comme tu dis, tu as ta vision périphérique, ce qui veut dire que tu vois sur les côtés.
Oui.
C'est dans le centre que c'est comme plus brouillé.
Exact.
Bon. Mais justement, là, toi, là, la journée qu'on t'annonce ça, toi, tu es une petite fille là, qui voyait bien. Oui. Le jour au lendemain, là, tu ne vois plus bien.
Ouais.
Puis tu es une adolescente.
Mm-hmm. C'était...
Comment ça se passe? C'est comme tu t'as nommé tantôt injustice.
Ouais. C'était un gros choc, surtout. J'étais là, genre... Comment c'est arrivé? Surtout ça, parce que je suis comme... Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui aurait créé ça? Parfois, je me blâmais. J'étais
comme
là, genre,
une espèce
j'ai dû
de
faire
responsabilité.
De quoi. C'est ça, j'étais là, j'ai dû faire de quoi? Mais il y en a qui sont capables de retracer quelque chose, mais moi, on n'a rien retracé qui aurait pu être la cause. Fait que c'est juste arrivé
du jour, de même.
Comme
là,
ça, du jour au lendemain.
Il n'y a pas de raison.
Genre,
là.
Graduellement,
c'est toi,
ça
c'est toi qui as pigé la loterie de l'handicap visuel. Non, mais tu sais, c'est ça aussi.
Oui.
Moi, souvent, c'est ça, je dis chez nous. Moi aussi, je suis toute seule chez nous qui a un handicap visuel. Bon, c'est ça. C'est moi qui ai pigé le numéro d'avoir des nerfs optiques atrophiés. Mais il n'y a rien qui explique.
C'est ça.
C'est ça. Donc, à un moment donné, on dit, c'est beau, je ne peux pas me responsabiliser.
C'est
là.
Ça.
C'est arrivé, Mais
exact.
Ça ne fait pas que c'est plus facile.
Oui, mais genre, c'était comme aussi de la tristesse parce que j'étais là comme, je vais faire quoi? Parce que moi, genre, j'étais en train de capoter là parce qu'on n'avait rien mis en place. On a juste dit, oh, by the way, tu peux aller à l'Institut Nazareth et Louis Braille.
Ouais.
Tu peux aller si ça te tente. Mais moi, je dis, tu dois y aller de peu importe pour que tu aies les adaptations
c'est
que tu as besoin.
Oui.
Tu sais, il n'y a pas de by the way, c'est tu y vas. C'est vraiment ça. Puis, en plus, ce qui est comme bizarre, c'est que quand j'étais à l'hôpital, genre, je pleurais pas, je me sentais tellement en sécurité parce que le monde était là, on faisait des tests, ils savaient où qu'ils allaient
aller. T'étais pris en charge.
C'est ça, puis quand j'étais chez moi, j'étais là, genre, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, y a rien qui bouge. Fait que là, ça m'a pris énormément de temps. Mais pas énormément de temps parce que...
Mais non, parce que t'as parlé d'un an et demi, là, donc c'est pas
genre,
énormément de temps, là.
C'est ça, mais comme, pour moi, ça a duré, genre, une éternité, mon deux mois de grande tristesse. J'ai vraiment passé, genre, deux mois où que j'étais comme, OK... là, en ce moment, c'est vraiment la grosse tristesse. Genre, je veux rien faire et tout.
Ouais,
je continue d'aller voir mes amis, je continue à l'école, je continue d'essayer de rester la vie d'adolescente le plus normale possible. Mm-hmm. Puis après deux mois, genre à l'Halloween, j'étais là comme, OK, là, l'école a vraiment commencé à mettre des affaires en place, ça a l'air à fonctionner.
Okay.
Et là, j'étais comme, là, c'est fini de pleurer, d'être en colère, fais juste continuer ta vie. Puis peut-être ça peut t'apporter des affaires bien, comme en ce moment, genre, avec l'âge des possibles, ça m'a apporté à vraiment, comme, vraiment m'exprimer là-dedans, parce que c'est, l'âge des possibles, c'était
mais
comme
l'âge des
quelques
possibles,
mois
c'est toi.
Après ça.
C'est toi, l'âge des possibles, qui a dit « je veux participer » à cette émission-là. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas eu comme l'âge des possibles qui vient cogner à ta porte.
C'est ça,
là.
Genre, j'ai vraiment
Donc,
voulu le faire.
Tu as eu cette envie-là.
Oui.
Et c'est... comme tu dis... T'es à peine dans ton début d'adaptation visuelle, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'aller participer à cette émission-là et de parler haut et fort à tout le monde là, t'sais, de ton histoire, finalement?
Bien, pour moi, c'était surtout le fait qu'ils font ça. J'étais là, c'est incroyable, genre, vraiment. Ils m'avaient parlé de comme quoi qu'ils avaient fait ça, mais pour des adolescents normales, une autre chaîne ou quelque chose comme ça. Et j'étais comme, hey, le fait qu'ils font ça pour montrer... les handicaps des adolescents pour dire qu'il y en a qui vivent comme ça, c'est bien correct, puis ils peuvent faire des affaires incroyables avec ça.
Mm-hmm.
Fait que là, pour moi, j'étais comme, hey, peu importe ce qui arrive, genre, je veux le faire, je veux participer à ça, ça a l'air tellement comme inspirant de aussi comme entendre toutes les autres jeunes qui expliquent leur situation et de voir à quel point qui sont résilients là-dedans. Genre, pour moi, quand j'ai vu les épisodes, là, j'étais vraiment comme nostalgique à certains moments. Et parfois, je cringeais parce que j'étais comme « Oh my God, pourquoi j'ai dit ça? » Mais en même temps, genre, j'étais comme « Hey, cette expérience-là m'a vraiment fait aussi découvrir le monde des communications, la télé et tout. » Parce que moi, avant, depuis que j'avais 7 ans, j'étais là, hey, moi, je veux juste être designer d'intérieur, c'est tout. Mais okay. après ma perte de vision, j'étais comme, ah, ben là, je peux plus vraiment faire ça, c'est bien trop compliqué, il y a bien trop d'adaptation et tout. Fait que là, j'étais comme, ah, je fais quoi? Fait que là, après, j'étais comme, oh, enseignante ou monde du sport, relations publiques, des affaires comme ça, parce que je suis une grande sportive,
oui,
j'adore
t'aimes, c'est ça, t'aimes beaucoup le sport.
Exact. Puis après, quand je vois tout l'orsa qu'il y a, tout, genre, avec les animatrices et tout ce qui se passe, j'adore ça, communiquer et tout. Fait que là, j'étais comme, ah, oh, ça a l'air tellement fun, ça a l'air que on dirait qu'ils ont juste du fun à chaque jour, ils ont l'air d'avoir un fun incroyable, puis ils sont tellement gentils, à quel point qu'ils nous ont mis à l'aise, genre tout de suite, c'était incroyable, genre avec mes amis aussi, genre mes amis étaient là, hey, ils sont tellement fins, ça se peut pas,
parce qu'ils sont vraiment rentrés dans ton intimité, tu sais, dans le sens que on te voit à l'école, on voit, tu sais, on voit vraiment ta vie. Donc, ils ont rentré dans ta vie.
C'est ça. C'était quand même quelque chose. J'étais là comme... Au moins, je suis pas bordélique. T'sais, ma chambre, genre, comme elle était dans l'émission, c'est vraiment comme ça qu'elle est. Genre, moi, j'aime ça, les choses qui sont organisées, ce qui aide quand tu as une perte de vision.
Exactement. C'est ça.
C'est ça. Mais comme, admettons, quand ils filmaient à l'école, quand il y avait personne dans les couloirs, c'était correct et tout. Mais quand c'était comme la rentrée, il y avait plein de monde, le monde était là. « Oh my God, il y a des caméras! What? » Oh my God, je veux dire allô, des mais affaires comme ça. Puis moi, j'étais là, genre, OK, je vais faire comme c'était comme mon amie Flo qui c'était elle qui se faisait filmer, mais c'était moi. Mais c'était juste vraiment drôle. Puis j'ai vraiment adoré ça parce que, genre, je trouvais comme quoi que, genre, c'était juste bien. Genre, il n'y avait pas de malaise trop souvent. Puis c'était juste comme. Ça nous a aussi permis de, comme aussi. Beaucoup plus m'affirmer devant mon école, tu sais, parce que moi, je suis dans une école régulière, là. Eux, ils vous voient pas ça, là. Il y en a qui savent même pas que, genre, je suis aveugle parce que je connais l'école par cœur.
T'as des points de repère.
C'est ça, je suis pas vraiment ma canne.
Mais c'est ça
que
j'allais dire, parce que t'as une canne.
Oui.
Est-ce que tu utilises ta canne dans l'école? Parce que moi-même, j'ai une canne, mais quand je suis dans des lieux que je connais, ma canne est assez. T'sais, donc,
oui,
ici, en studio, j'ai pas besoin de ma canne. Je sais exactement les choses sont où. Mais c'est sûr que si je m'en vais dans un centre d'achat, non, là, ça me prend ma canne absolument. Je prends pas de chance. Là. T'sais, je veux être identifiée aussi.
Oui,
je veux que les gens comprennent que j'ai un handicap. Là.
Exact.
Mais toi, c'est à l'école, tu te déplaces avec ta canne ou il y a vraiment des moments où est-ce qu'elle est comme mise de côté?
Ben moi, c'est comme tu as dit, c'est quand je suis à l'extérieur dans un centre d'achat ou n'importe quel autre endroit parce que, genre vraiment, mon école, c'est rempli. Des adolescents, ça vit dans sa bulle. Il va pas faire attention aux autres. Fait que là, je suis comme, j'ai juste ramassé plein de gens, j'ai fait blesser. Fait que là, de toute façon, l'école m'a permis de faire une visite pour que j'apprenne où sont mes locales. Mes amis peuvent aussi apprendre où sont leur local et les miens. Puis là, ça l'a aidé. Puis là, après, je connaissais bien l'école. Fait que ça, c'était un gros bonus.
Mais comme tu dis, dans l'école, tu te déplaces avec ta canne.
Non, je déplace pas avec ma canne.
OK, c'est ça.
Non.
Mais tu longes les murs?
Ben, avec ma vision périphérique, je peux quand même bien comme me diriger.
Okay.
Je comprends vraiment bien mon environnement. Je me donne vraiment des pointages, des bons points comme étant.
Oui,
il y a un tableau
oui.
là, ma classe est juste à côté.
Ouais, ouais.
C'est juste parfois la distance entre les gens puis moi que ça peut être compliqué, mais vraiment genre les couloirs sont tellement peu larges que de toute façon tout le monde se fonce dedans.
Bah, c'est ça. Déjà on est habitué naturellement, on dirait là tout le monde sort en même temps d'un corridor. C'est ça, il y a beaucoup de monde. Naturellement, on accroche les gens.
Ouais.
Oh, oui.
Ben par contre, on m'a donné le droit de comme sortir à l'avance quand c'est la fin des cours pour aller au bus, parce que ça peut être compliqué et tout. Là, les bus, c'est horrible. Genre, j'ai de la difficulté. Genre, l'année dernière, j'étais capable de savoir où il était parce que c'était toujours le dernier qui arrivait. Fait que, où qu'il y avait un gros trou, c'est celui-là. Mais là, cette année, genre, c'est un autre conducteur, toujours là. Fait que là, mes amis, ils viennent toujours m'aider parce que l'année dernière, j'avais aussi une amie qui était dans le bus avec moi, mais elle a déménagé. Elle n'est plus avec moi.
OK.
Puis aussi, j'ai aussi un horaire qui est quand même allégé. L'année dernière, j'avais genre un ou deux cours par jour. Puis là, j'ai vraiment un horaire quand même complet de 3 ou 4 périodes, mais ça dépend aussi. Mais genre,
parce que tu es en secondaire 5.
Là, je suis en secondaire 5, puis je suis en train de faire...
Tu termines. Ouais. On est au mois de mai.
Ouais, je termine.
Donc,
j'ai fait mon examen du ministère hier.
Ben, c'est ça.
C'est ça.
T'es là-dedans.
Ouais.
Et là, après, c'est le cégep.
Oui, je suis déjà inscrite et tout. On a commencé à faire des rencontres avec mon cégep. Puis
t'en vas où?
On va...
En quel programme?
Je vais en sciences humaines.
OK.
Je me suis dit que j'allais commencer par là, puis après, si je veux comme changer, ben, je vais juste changer. Puis ce qui est intéressant que le cégep que j'ai choisi, c'est que c'est le cégep de Valleyfield, mais il y a un campus dans ma ville.
OK.
Fait que c'est genre 5 minutes de voiture, ce qui est vraiment pratique là, quand on y pense, parce que les déplacements sont faciles, puis je suis vraiment capable de me déplacer tout seul en marchant dehors comme ça. Là, genre, c'est... Parce qu'en fait, l'endroit où c'est mon ancienne bibliothèque de ma ville aussi.
OK.
Fait que là, je connais bien l'endroit, j'ai fait quelques visites, puis les gens ont l'air à vraiment avoir une bonne communication avec mon école, puis ils se préparent vraiment pour mon arrivée.
Ah, wow! Mais là, parce que là, c'est ça, là, tu vas aller au cégep.
Ouais.
Comme tu dis, sciences humaines, ça te permet aussi de, exemple, tu vas aller en communication.
Oui.
Ben, t'es déjà dans un chemin.
Dans un chemin pour y aller.
Pour y aller. Ouais. Et si tu vas aller en enseignement, histoire, même
je
chose.
Je le suis aussi, c'est ça.
C'est ça, t'as pris un programme que tu sais que ça te donne plusieurs options.
Exact. Oui.
Fait que ça, c'est le fun.
Vraiment.
Tu sais, là, tu l'as pas encore commencé, le cégep, mais tu sais, moi, je vais être vraiment intéressée à te recevoir, que tu nous racontes comment ça s'est passé.
Ben
en
oui.
plus, en sachant que t'aimes les communications et que t'es à l'aise de parler devant un micro, écoute, tu pourras revenir et on pourra t'accompagner dans le processus.
Je vais faire des stages.
Oui, c'est ça, exactement. Éventuellement, tu aideras, c'est ça, tester. Je te donnerai tranquillement un peu plus le micro. Hein? J'ai déjà fait ça.
J'ai posé des questions. À toi.
Oui, et c'est ça, on va inverser
le rôle,
c'est ça. Mais non, mais moi, je trouve ça super inspirant. Puis, tu sais, on a, avec Anouchka, juste avant, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même parcours.
Vraiment, tout le monde, c'est différent.
Tout le monde, c'est différent, mais tu sais, je reconnais vraiment ta force parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est arrivé dans une période déjà qui n'est pas facile.
Avec tous les examens du ministère.
Mais l'adolescence, perte de vision, perte de repère, tu sais, donc, moi, je m'en allais, je dansais, je faisais telle activité. Tu sais, t'étais dans une...
Je faisais du basketball avant, je peux plus en faire.
Ben, c'est ça.
Je fais du goalball, par contre, maintenant.
Ben, tu vois, c'est ça, c'est là, je dis cette force-là, tu sais, de dire, OK, je peux plus faire ça, mais je vais faire ça à la place, puis je vais faire ça différemment.
Exact.
Puis ça, c'est une grande force que t'as, puis une résilience. Puis comme tu dis, tu sais, quand... Oui, t'as eu 2 mois que t'as pleuré, tout ça, qui est tout à fait normal.
Mais il y en a, ça dure des années.
Ben,
là.
C'est pour ça. Puis toi, tu t'es levé, tu t'as dit « Hey, c'est assez ». Donc ça, c'est un super message pour peu importe l'âge des gens qui vont écouter ça. Vraiment, merci infiniment, Émilie. Puis comme
plaisir.
Je t'ai dit, on va pouvoir continuer d'apprendre ton parcours au fur et à mesure.
Parfait.
Parce que moi, je vais être vraiment intéressée de te recevoir éventuellement.
Ouh.
Je remercie vraiment, wow, quelle belle émission. Donc, la grande générosité de mes belles invités. Vous pouvez écouter L'âge des possibles, justement, pour en apprendre plus. C'est sur Ami Télé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle émission. Merci, Mathieu, à la mise en onde. Bye bye tout le monde.
Mission Vision avec Julie Châtelain.
Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Aujourd'hui, là, pour Mission Vision, je fais un spécial de 2 belles jeunes filles qui ont participé à la même émission, L'âge des possibles, qui est diffusée sur Ami Télé. Et je vais recevoir chacune, une après l'autre, dans cette émission, 2 belles jeunes en situation de handicap visuel, évidemment, très inspirantes. Et je vais commencer par Anouchka Mabika et tout de suite après Émilie Boyer. Et on va découvrir qu'ils ont un parcours vraiment inspirant. Mais j'accueille en premier Anouchka qui est avec moi en studio. Allô Anouchka.
Bonjour.
Comment ça va?
Je vais très bien et vous?
Mais moi, ça va vraiment bien. Je suis très contente de t'avoir en studio, hein, parce que tu as vraiment une histoire super inspirante. Et c'est très drôle parce que quand j'ai fait une entrevue avec du personnel de Jacques Ouellet, de l'école Jacques Ouellet, et que je leur ai dit que j'allais te recevoir, ils me disaient « Ah! Oh, tu vas voir Anouchka! Ah, tellement inspirante, cette jeune! » Donc, Anouchka, tu as 18 ans. Alors, toi, c'est quoi ta condition visuelle? Parce qu'on ne parle pas de quelque chose que ça fait depuis que tu es bébé, là.
Non,
hein?
Non.
Donc, qu'est-ce que c'est ta condition visuelle?
Moi, j'ai une atrophie du nerf optique.
Oui, mais provoquée par...
Par une tumeur cérébrale.
C'est ça. Donc, on n'est pas du tout dans quelque chose là, d'héréditaire dans la famille.
Non.
Donc, toi, c'est vraiment la tumeur cérébrale qui a provoqué l'atrophie des nerfs optiques.
Ouais.
C'est arrivé quand même, ça fait pas très longtemps, hein?
Non, ça fait 3-4 ans que c'est arrivé.
C'est ça. Tu avais à peu près 15 ans? 14-15?
Oui, 14-15, oui.
Donc, ce qui veut dire que 14-15 ans, tu as et la tumeur cérébrale et après ça, perte de vision totale, donc aveugle. OK. Comment ça s'est passé, ce processus-là, là, du moment qu'on te dit tu as une tumeur cérébrale, on t'opère, il y a des tests, comment ça s'est passé?
En fait, ma situation était un peu comme particulière parce qu'au moment où j'ai eu mon diagnostic, ma famille n'était pas ici au Canada.
Oh.
On vivait au Botswana dans un camp de réfugiés. Et quand j'avais commencé à avoir des pertes de vue, comme au camp, il y avait pas, l'accès aux soins médicaux était vraiment limité, alors on peut pas vraiment, mais comme on savait pas ce qui se passait. Et comme il y avait une petite clinique et j'allais là-bas comme presque chaque jour pour leur dire comme ce qui se passait avec mes yeux et tout ce que je vivais et tout, mais quand pour eux c'était pas assez grave pour qu'ils m'amènent à l'hôpital, genre parce que c'était un long processus. Parce que les hôpitaux étaient loin du camp, alors il fallait demander des permissions, des trucs comme ça. Pour qu'ils t'amènent à l'hôpital, il fallait que ça soit vraiment, vraiment grave.
Ouais,
mourir.
Ben, c'est ça, exactement. Là. Quelque chose au niveau physique.
C'est ça.
Alors,
comme je disais, genre, j'ai perdu la vue et tout. Ils m'ont dit, ah, peut-être que tu as besoin de lunettes. J'ai attendu, ils m'ont donné des lunettes. J'ai commencé à mettre des lunettes pour m'aider à voir à l'école et tout.
Oui.
Mais il y avait un truc bizarre qui se passait avec mes yeux. On dirait parfois, je me réveillais le matin et mes yeux étaient comme gonflés. Je ne comprenais pas, genre, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, un jour, je me suis réveillée comme ça. J'avais comme, comment on appelle ça, genre, tu vois quand les yeux, ils ne regardent pas dans la même direction?
Oui. Ben, en fait, comme quand ils sont astigmatistes, là, ou du strabisme.
Oui, strabisme, oui, c'est ça.
Chacun, genre,
c'est ça, je me suis dit, mais ça, c'est grave. Genre, comment ça, mes yeux, ils sont comme ça?
Ouais.
Genre, ça, c'est là que j'ai commencé à paniquer. Genre, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, pour moi, je savais que ce n'était pas dans mes yeux, mais dans ma tête. Parce que, genre.
Oui,
on dirait que je ne me sentais pas vraiment comme. J'étais pas vraiment comme moi-même. J'étais comme, on dirait, il y avait quelque chose qui se passait dans ma tête, que moi-même, que j'arrive pas à expliquer.
Okay.
Et c'est ça, j'étais comme un peu trop dans la lune. On dirait, c'était pas comme. J'étais pas moi. On dirait, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ma tête. Mais comme, quand on allait à la clinique, ils disaient, ben genre, non, on peut rien faire pour elle. On l'a donné des lunettes et tout. On peut juste donner des trucs, des gouttes pour mettre dans les yeux. Et c'est ça qu'on peut faire. J'ai commencé à avoir des terrible mal de tête, surtout la nuit. On dirait que je sentais comme si quelqu'un me frappait avec un marteau derrière la tête, comme littéralement.
Et
quand j'avais ces maux de tête-là, j'avais comme une vertige, comme terrible, et j'ai vomissais et tout.
Ah, oui, hein?
Ouais, c'est ça. J'ai commencé à perdre du poids et comme à voir un peu flou de jour au jour. Je voyais ma vue partir jusqu'au moment où, quand on est allé à la clinique pour la dernière fois, il y avait mes deux sœurs aussi, parce que genre au camp on était genre ma mère était restée au Congo quand on a quitté. Alors j'étais avec mes sœurs et aussi ils ont comme lâché l'école pour m'aider, pour prendre soin de moi.
OK, mais là toi là-bas là dans le camp de réfugiés là, tu es avec tes sœurs?
Ouais, mon père et
ton père et ta mère.
Pas ma mère.
Pas ta mère.
Ouais, ma mère était, on a quitté le Congo en 2017 et ma mère était les circonstances n'ont pas permis qu'elle vienne avec nous, elle et deux autres petits frères.
Ah, OK. Donc, la famille était coupée en deux.
Oui, c'est
là.
Ça, c'est ça.
Ce qui veut dire que là, toi, t'es avec ton papa, mais ton papa, lui, il doit travailler, hein, sûrement. Que, parce que là, comme tu dis, tes sœurs, ils ont arrêté l'école pour s'occuper
pas
de toi.
Pas de moi, c'est ça.
C'est pas ton père qui pouvait faire ça.
Non, non. Oui, c'est ça. Donc, ma sœur, elle m'a guidée par la main pour aller... Et même sortir dehors, ça me faisait trop mal aux yeux, terriblement aux yeux à cause de la lumière. Alors, comme je mettais quelque chose pour me protéger, comme le visage, pour couvrir le visage et tout. Puis ma sœur, elle m'a guidée au clinique. Puis ils ont vraiment vu que, comme... Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille, genre... Non. Là, ils ont vu que c'était vraiment comme...
Grave.
Il y avait quelque chose qui ne va pas. Et ces journées-là... parce qu'à la clinique, je pense aussi, il n'y avait pas comme... des gens...
des spécialistes, oui, genre des neurologues.
C'était juste comme des infirmières stagiaires.
Ben oui.
Mais cette journée-là, il y avait comme... je pense que c'était un médecin qui était venu, qui passait juste, je ne sais pas, il était venu faire quoi. Mais une chance, on est arrivé au même moment qu'il était là. Puis il m'a regardé, il a dit à ma soeur, je crois, dites-moi, genre, c'est quoi qu'elle, comme...
Les symptômes.
Oui, c'est ça. Puis on l'a dit, genre, elle a des maux de tête, vous voyez, comme... Mm. Elle est un peu pâle et tout ça. Puis il a dit à ma soeur, je crois que ta soeur, elle a une tumeur.
Hey.
Puis il a dit, je vais écrire une lettre pour demander la permission que vous allez, comme... vous sortir du camp pour aller en ville faire une résonance magnétique.
Oui, OK.
Pour voir si elle a vraiment une tumeur ou pas.
OK.
Et c'est ça, ils ont fait comme le processus et tout. Une semaine après, on a eu la permission pour aller en ville faire une résonance magnétique. Et c'est là qu'ils ont,
ils ont vu
ouais, que j'avais une tumeur. Mais c'était encore comme... C'était pas très, très gros.
Comme c'est encore là, une tumeur là, qui était en stade pas très avancé.
Oui, c'est ça, exactement.
Mais avec les symptômes que tu avais, imagine, c'était déjà énorme. Là.
Oui.
Mais oui.
Donc, ils ont dit à ma sœur, genre, OK, on va vous transférer à un autre hôpital. Puis là-bas, ils peuvent voir ce qu'ils peuvent faire pour vous. Donc, on est allé avec ma sœur. C'était vraiment loin. Genre, c'était vraiment une longue journée, parce que genre, le camp, c'était comme dans un petit village, et c'était comme 4 heures de route pour aller à l'autre hôpital, à l'hôpital, puis un autre 4 heures de route pour aller à l'autre hôpital.
Oh là là! Tu le vois, c'est vraiment pas la même réalité que nous ici, là. Même si des fois, il y en a qui chialent sur notre système médical, on s'entend que... on est à des kilomètres là, de ce que toi, tu as vécu.
C'est ça.
Là, tu veux dire, avec tes sœurs, là, c'est quoi cette journée-là? Vous êtes en transport en commun?
Non, c'était comme un genre de bus que le camp avait comme... qu'on avait comme payé le transport, parce que nous, non plus, on n'avait pas d'argent pour le transport. C'était le gouvernement qui s'occupait de tout ça, le transport et tout. Et c'est pour cela que même ma famille, le reste de ma famille ne pouvait même pas venir me voir à l'hôpital parce que, genre, le transport, il fallait comme demander...
Ils ne payaient pas pour tout le monde, là.
C'est ça, il fallait faire une demande de finances pour... c'est ça, on est allé avec ma soeur à l'autre hôpital, puis ils ont dit à ma soeur, ils ont fait d'autres tests sur moi, puis ils ont dit, elle ne peut pas retourner à la maison, toi rentre, puis elle reste ici. Moi, c'est là que ça a comme... C'est ça qui m'a comme... Parce que moi, quand on m'a dit... On vous avait dit j'avais une tumeur.
Oui.
Étrangement, j'étais restée calme. Genre, on dirait que je m'attendais un peu à ça. Je m'attendais à quelque chose de comme ça. Comme, pour moi, j'étais comme, OK, au moins, on sait maintenant ce qui se passe.
Oui.
Mais là, quand on a dit à ma soeur, elle reste seule, j'ai dit, non, je ne peux pas rester seule, non. Genre, je ne peux pas vivre avec ça tout seul. Genre, comme, je vais retourner à la maison et tout. Je m'en fous si je suis malade, je vais juste être avec vous, tu vois. Puis, c'est ça. Puis, ils ont dit, non, à cause du COVID. Parce que nous, on ne s'attendait pas que j'allais rester. Pour nous, ça, on se disait juste comme, on va faire la résonance magnétique.
Oui.
Puis, on va voir ce qui se passe.
Tu ne t'attends pas à aller te faire opérer, là.
En fait, il n'y a même pas d'opération. En fait, l'histoire est tellement genre... Parce que moi je disais, OK, on sait ce qui se passe. Puis après, je rentre à la maison, puis on va voir. Maintenant, ils m'ont dit, tu restes ici, puis ta sœur, elle rentre.
Oui.
Donc, c'est à cause de la COVID et tout. Ils ont dit, ah ouais, on ne peut pas accepter tout ça. Puis, j'ai commencé à pleurer. Puis, ma sœur, elle m'a dit, non, écoute, je vais retourner lundi. C'était un jeudi. Elle m'a dit, je vais retourner lundi pour te chercher. On m'a dit, lundi, je te prends, on rentre à la maison. Ça m'a donné un peu d'espoir. Je dis, OK, ça va. Ils m'ont amené à ma chambre et tout. Puis, cette journée-là, c'était tout noir. Le matin, je voyais un peu flou.
Je voyais comme...
Oh mon Dieu,
puis okay. Arrivé à la nuit, c'était comme, c'était tout noir, tout noir.
Donc, ta perte de vision est arrivée là.
Oui. Puis,
et c'est toute seule.
J'étais toute seule.
Oh là là.
En fait, c'était comme
un rêve.
Oui, j'ai dit, mais
ouais,
est-ce que c'est moi?
Ouais.
Ou genre, est-ce que je suis ici dans l'hôpital? Parce que j'ai jamais passé de nuit à l'hôpital.
Non, c'est ça. T'es
avant.
Comme dans une autre dimension, on dirait. Là, tu comprends pas trop ce qui se passe.
Oui, il y a comme... J'ai comme un peu réfléchi aux trois derniers mois, parce que tout s'est passé, genre, en trois mois, je voyais parfaitement bien.
Mais oui.
Puis tout d'un coup, j'ai commencé à perdre la vue. Mm-hmm. Puis regarde-moi, aujourd'hui, je vois plus rien. Et je suis dans un hôpital tout seul. C'est comme, c'est quoi qui se passe? Genre, c'était trop dur à avaler tout ça. Je me suis dit, OK, au moins lundi, ma chère va venir me chercher.
Mm-hmm.
Puis je rentre à la maison.
Mm.
Puis le lendemain matin, on est venu me faire comme un test COVID.
OK.
Et devine ce qui s'est passé.
Mais là, en plus, tu es dans la période de la COVID.
Oui.
Par exprès, hein, c'est ça?
C'est ça. Puis bon, j'ai testé positive
mais
pour
oui,
la COVID.
C'est ça.
C'est ça, ils m'ont mis dans
en quarantaine.
En quarantaine.
Oh,
donc,
mon Dieu.
Lundi, ma soeur est venue me voir.
Elle pouvait pas passer ta COVID.
Même pas me voir. Genre, en fait, j'étais là, j'attendais. Genre, le matin, je me suis dit, ma soeur, elle va venir en n'importe quel moment. J'étais là, j'attendais. Puis, elle n'est pas venue. J'attendais longtemps. Mm-hmm. J'attendais longtemps. Puis, j'ai commencé à m'inquiéter. L'après-midi, il n'y avait personne.
Mm-hmm.
J'ai commencé à pleurer. Puis, je me suis endormie. Puis, quand je me suis réveillée, c'était la nuit. Puis j'ai vu, il y avait comme sur mon lit, il y avait comme un sac avec des biscuits et des trucs comme ça. J'ai demandé à l'infirmière qui est venue, genre, c'est qui a laissé ça ici? Elle a dit, c'est ta sœur. Elle a dit, elle est où? Elle est où?
Oh.
Je suis allée avec ma sœur. Elle a dit, elle est partie. Ça, c'était un cauchemar. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, je vais voir ma sœur. Je vais retourner à la maison. Je vais voir ma sœur.
OK, puis... mais là, Anouchka, ça veut dire que toi, t'es toute seule à l'hôpital.
Ouais.
On prend-tu soin de toi? Est-ce qu'on t'explique? Parce que, tu sais, OK, t'as une tumeur, mais là, c'est comme t'as et une tumeur et... t'es aveugle et t'es toute seule. Est-ce qu'on prend soin de toi? Est-ce que t'as du soutien ou c'est comme...
Non, c'est juste comme... Parce
t'es genre là, mais arrange-toi toute seule.
Oui, parce qu'en fait, parce que j'étais réfugiée.
Ah oui, mais c'est ça.
Les soins, comme ça, il fallait comme...
Faut payer.
Que je me fasse opérer, mais... L'opération coûtait trop cher, comme
c'est
le
ça.
Gouvernement, c'est comme... Il demande à lui, à l'organisme comme... UN, comme UNHCR, c'est eux qui s'occupent de réfugiés, genre, au monde, quoi.
Mm-hmm.
Puis, comme, pour l'opération, ça, c'était trop cher. Comme, il n'y avait pas de fonds pour...
Mais idéalement, ça te prenait une opération.
Oui, et en ce moment-là, si j'étais, comme, opérée, si je me suis fait opérer à ce moment-là, j'allais récupérer ma vue.
Oh.
Parce que là, c'est ça. Parce
c'est
que
ça.
Ce qui a causé ma perte de vue, c'était pas la tumeur en soi, mais parce que je suis restée longtemps avec.
Mais c'est
sans
c'est,
sans
c'est
traitement
ça.
Ni
c'est
rien.
Ça. C'est ça. Est-ce
donc,
que finalement, ils t'ont opéré?
En fait, on attendait notre voyage ici. Parce que même avant que je tombe malade, on savait qu'on allait voyager ici. Parce que c'est comme, tu vois, je sais pas si tu sais comment ça se passe dans les camps des réfugiés.
Mais
et
ici,
tout.
C'était un voyage? C'était pas supposé, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, c'était déjà planifié avec ta famille de venir ici, mais comme en voyage, de venir emménager ici.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, comment ça se passe comme, quand t'es réfugié, on cherche comme à te retrouver une nouvelle
oui.
maison, tu vois. Et
oui.
Donc, nous, on nous avait dit, votre nouvelle maison serait au Canada, mais
mm-hmm.
on attendait notre voyage et c'est un long processus.
Ben oui.
C'est vraiment long. Il faut faire le check-up médical, il faut faire plein de trucs. Et à cause de la COVID aussi, ça avait retardé parce que les frontières étaient fermées. On a commencé un peu à mettre de pression pour dire genre si, parce qu'elle est on a quelqu'un de malade dans cette
mm-hmm,
famille
mm-hmm.
est-ce que c'est possible de un peu comme avancer rapidement le processus
oui.
pour que parce que genre il fallait que je me fasse opérer ici au Canada
mais dans le fond c'est ça
oui parce qu'on était comme on était aux yeux du gouvernement comme là où on était comme au Botswana on était c'était pas eux qui étaient en charge de nous, c'était le gouvernement canadien, parce que genre, c'est eux qui nous avaient accepté comme qu'ils allaient nous prendre. Donc
okay.
pour eux, l'opération, ils ont dit, c'est pas nous qui va s'en charger, c'est comme...
Le Canada.
Oui, il fallait comme on voyage ici. Maintenant, le voyage aussi était long, et donc je suis restée à l'hôpital, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'opération.
Ah, tout est partout, là, le temps que t'es arrivée à l'hôpital, que t'es restée seule...
C'était des mois, j'ai passé des mois à l'hôpital.
T'as passé des mois?
Plusieurs mois.
Toute seule?
Ouais.
Et après ça, le voyage, ça a pris combien de temps?
En fait, c'est passé, c'est que genre, la tumeur, elle est restée trop... En fait, avant, je me disais, mais ce truc de, à part ma perte de vue, il y avait, je sentais pas de maladie dans mon corps. Genre, on dirait que c'était comme, ok, ils avaient des maux de tête et tout, mais genre, je disais, mais genre, je suis pas malade, je suis correct, je vais retenir à la maison. J'ai même dit au docteur, genre, aux médecins, aux infirmières qui étaient là, comme, j'ai dit, si je retourne, si je rentre pas à la maison, c'est pas la maladie qui va me tuer, c'est la solitude.
Oui, oui, oui.
Puis,
c'est
ça. Je suis restée comme des mois à l'hôpital, puis après, on m'a amenée à la maison pour comme quelques jours. Puis c'est là comme que mon corps, il a vraiment lâché. Même avant qu'on m'amène à la maison, comme, parce que j'avais demandé, est-ce que je peux juste aller comme pour quelques journées, passer des temps avec ma famille et tout.
Mm-hmm.
Déjà, une partie de mon visage était comme... Je sentais plus une partie de mon visage, j'étais comme un peu paralysée et tout.
Mm-hmm.
Et c'est de là que, genre, ouais, c'est ça, mon corps a vraiment lâché, je suis tombée dans le corps. En fait, je pense que j'ai perdu la tête, comme parce que...
nous ici, moi, j'appelle ça de même, là, mais j'appelle ça un shutdown. Mm-hmm. C'est comme le corps, il lâche.
Ouais.
Et là, après ça, ça peut être plein de symptômes. T'sais, ça peut être autant quelqu'un qui fait des convulsions même conscientes. Là. T'sais, la personne est consciente qu'elle fait des convulsions, donc c'est pas des vraies convulsions, mais c'est comme un shutdown.
Ouais.
Perte de connaissance, t'sais, justement, coma. T'sais, c'est comme si le corps... Toi, là, tout le temps que t'es à l'hôpital, tu t'es maintenu dans quelque chose de, où est-ce que t'es comme en mode gestion de crise, là. Et là, quand tu arrives dans ta famille, c'est comme si là, tu peux te déposer. Mais finalement, le corps, tout ce qu'il a accumulé de stress pendant les mois avant, là, il lâche.
C'est ça.
Fait que t'es tombée dans le coma.
Ouais. En fait, tu vois, comme avec le temps, genre, parce que la tumeur, elle grossissait dans la tête, j'ai commencé à vraiment sentir que, genre, je suis malade, là. Genre,
oui.
Je sentais dans mon corps vraiment, genre, les vertiges, c'était terrible. Genre, en fait, j'arrivais même pas à m'asseoir. Quand j'avais ces vertiges-là, même m'asseoir, je sentais de la vertige, même quand t'es assis et tout.
Oui.
Mais en fait, à l'hôpital, quand j'étais seule, quand les médecins, là, ils venaient, mais parce qu'en fait, j'avais pas de traitement et tout, je disais, mais genre, ça sert à rien que je reste ici, alors amenez-moi à la maison. Ouais. Alors, je prétendais être comme, je suis pas malade. Quand les médecins venaient me voir.
Pour les convaincre.
Oui, que je dois rentrer à la maison.
Pour retourner à la maison, c'est
genre,
ça.
Quand même, quand je me sentais pas bien, je disais, je m'assoyais, j'étais là, je souriais, pour leur montrer que, genre, je suis bien, je vais rentrer à la maison, t'as vu. Et... ouais, donc quand je suis rentrée à la maison, je ne m'appelle pas vraiment de ce qui s'est passé parce que j'ai perdu connaissance.
Mais oui.
C'est ça, genre, mon corps l'a lâché. J'avais comme des crises, la tumeur avait déclenché des crises épileptiques.
Ben, c'est ça, je te dis, des convulsions.
Oui, c'est ça.
Mais oui.
J'arrivais plus à entendre, à parler. Toute partie, je pense, droite de mon corps était paralysée.
Oui, c'est ça.
Et partie gauche, il avait des spasmes, genre ça bougeait dans tout, constamment.
Ouais.
Et c'est là que je ne me rappelle pas vraiment de ce qui s'est passé.
Mais non.
Puis quelques mois après, je me suis réveillée, j'étais au Canada.
Hein?
Ouais.
T'es retournée chez toi, t'as comme ton corps a lâché, donc évidemment, t'es pas vraiment consciente de tout ça.
Oui, apparemment. Genre,
mais t'as pas été consciente du voyage, de combien de temps ça a pris?
J'étais dans le coma, parce qu'en fait, à ce qui paraît,
voyons
on m'avait
donc
ramené à l'hôpital, ma soeur m'a raconté, genre, parce que genre, tout le monde a pu, c'est cette période-là, c'était comme, c'est dur d'en parler, même aujourd'hui avec ma famille, genre, c'était vraiment, genre, c'était très, très difficile. À ce qui paraît, genre, quand mon corps a lâché, on m'avait ramené à l'hôpital et j'ai passé plusieurs autres mois là-bas à l'hôpital.
Mm-hmm.
Mais moi, je ne me rappelle plus de rien. Mm-hmm. Ouais, parce que genre, je respirais juste, j'avais juste la respiration. Mm-hmm. Et je suis très contente que je ne me rappelle pas de rien parce que l'hôpital...
Ah oui, hein?
Non, c'était trop dur. Pour moi, l'hôpital, c'était...
En fait, je pense qu'il y avait une stratégie aussi tu sais, comme, je ne suis pas capable, je ne peux plus vivre ça, là.
Ouais. Donc, on m'avait ramené à l'hôpital jusqu'au temps de notre voyage. Puis tout ça, moi, je ne me rappelle pas de rien. C'était comme... Des mois se sont passés.
C'est pour ça que tu ne sais pas non plus exactement à quel âge tout ça s'est arrivé.
Oui.
Parce qu'il y a comme une partie que tu ne sais plus. Tu sais que tu as entre 14 et 15 ans. Tu sais, tu es une adolescente, tu le sais. Mais après ça, quand ça a commencé le processus, ça se peut que ça soit même plus long que ce que tu penses.
Oui. En fait, quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais 13 ans. Puis quand je me suis réveillée ici...
T'avais 15?
J'avais 13 ans. Puis quand je me suis réveillée ici, on m'avait dit « t'as 14 ans ».
OK.
Parce que je me suis réveillée après mon anniversaire.
OK. Puis là, tu sais que t'as 14.
C'est ça. Parce que genre, mon anniversaire, c'est en janvier. Puis quand on est arrivé nous, en décembre ici, puis moi, j'ai repris connaissance.
À l'hôpital.
Oui, à Saint-Justine, ici, c'était en mars, vers mars, je crois.
Tu te rappelles d'avoir ouvert les yeux et de faire « OK, je suis où? »
C'est ça.
Et t'es à Sainte-Justine.
Oui. Puis elle m'a dit « Ouais, c'est ça, on a voyagé. » Là, t'as 14 ans, ton anniversaire est déjà passé. T'as eu ton opération.
Parce que mon opération... À Sainte-Justine?
Oui, parce qu'en fait, comment ça s'est passé? Genre, dans l'avion, on m'avait mis dans un petit lit comme ça, puis on avait voyagé avec un docteur du Botswana pour s'assurer juste que... Est-ce qu'elle est encore vivante?
Ben oui, c'est
parce
sûr.
Parce que... En fait, ce qui se passait, c'est que ma famille priait que on arrive ici, que je sois encore.
Attends.
Oui. Oui. Parce que j'étais vraiment comme. J'étais morte. Il ne restait plus rien. Oui. Puis, en fait, quand on est arrivé, l'ambulance nous attendait à l'aéroport.
OK.
Je suis arrivée, on m'a mis directement dans l'ambulance à Saint-Justine. Mm. Et directement, on a fait mon opération. Parce que, genre, la même nuit.
C'est pas. C'est, j'en reviens pas. Tu parles, j'ai la bouche ouverte. J'en reviens pas. OK. Donc là, tu te réveilles. À Sainte-Justine, tu as été opérée, mais là, tu as été opérée, comme tu disais, trop tard.
Ouais.
Donc, la vision, elle est impactée. Mm-hmm. Les nerfs ont eu le temps de s'atrophier, ce qui veut dire que même si on a enlevé la tumeur, tu es aveugle.
Ouais.
C'est ça.
Parce qu'à cause du temps que ça
ben oui.
C'était vraiment, c'était comme, c'était une bosse. C'était gros, c'était rendu vraiment, vraiment gros.
C'est sûr, Avec le temps, là, ça veut dire que ça grossissait.
Oui. Genre, et en fait, je le sentais, genre, dans ma tête, on dirait, genre, quand ça montait, on dirait que je sentais vraiment quelque chose monter, genre, ça avait commencé même derrière la tête, et c'est pour ça que ça avait affecté ma vue en premier, parce que, genre, tu vois, les nerfs de vue sont derrière la tête, puis c'est là que ça avait commencé, et mon père, il m'a dit, genre, on me l'avait montré, le truc que t'avais dans la tête, j'arrivais pas à croire.
Que c'était gros de même?
Oui, c'est impossible d'avoir ça. Elle m'a dit, c'est comme, c'est un miracle.
Mais t'es miraculée, là, pour vrai, t'sais, avec tout le parcours, tu sais, puis j'avais aucune idée de ça, tu sais, dans le sens que, moi, je t'avais posé comme des petites questions, mais j'avais aucune idée de ce que tu avais vécu. Je savais juste que ta vision, tu avais perdu vers 15 ans, mais Jacques Ouellet. Donc là, c'est pour ça, moi-même, je suis abasourdie là, d'entendre tout ça. Et la façon que tu le racontes et comment tu as une force en toi, bien malgré toi, probablement parce que tu t'es pas dit à aucun moment... je vais être forte, c'est comme si ça s'est fait naturellement au fur et à mesure là, d'être confrontée à toutes ces épreuves-là. Mm-hmm. Mais c'est pour ça qu'à l'école, quand ils me disent « Oh oui, Anouchka, tu vas voir, elle est vraiment inspirante », ben mon Dieu, écoute, tu me vois peut-être pas, mais je veux dire, je suis devant toi, puis je suis comme « Oh mon, wow, tu viens de me transmettre quelque chose là, tu sais, au niveau du courage, de que wow, tu te trouves vraiment inspirante.
Ouais, parfois on n'a pas le choix, hein. Tu vraiment. Sais, parfois genre, on n'a pas le choix d'être forte.
Ouais. C'est ça, c'est toi. Puis justement, quand t'as fait, parce que là tu viens parler. Tu sais, les gens, les auditeurs vont t'entendre, vont dire, oh mon Dieu, wow, cette fille là est vraiment inspirante. Mais à l'âge des possibles, cette émission-là aussi, c'est un peu ça. Mm-hmm. C'est de transmettre un peu ton histoire et d'inspirer les gens. Parce que tu me disais ça, que pour toi, c'était important d'inspirer les gens.
Parce que je me suis dit, genre, si j'ai vécu tout ça, puis je le garde pour moi-même, je l'ai vécu pour rien. Vaut mieux comme l'utiliser comme pour donner la force à d'autres personnes et comme l'espoir que, genre... Même après une tragédie, on peut continuer à rêver, on peut continuer à rêver grand même. Genre, parce que les limites, on se le met à nous-mêmes. Hein, genre, on met nous-mêmes des limites. Et comme on ne peut pas décider ce que la vie nous envoie. Genre, on ne peut pas décider les défis qu'on rencontre. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est comment on le transforme et comment on le vit. Et tu vois, on peut passer le restant de notre jour à s'apitoyer sur notre sort. Et ça, c'est correct aussi, mais il faut savoir que, genre, les défis ne sont pas là pour nous abattre, mais pour être comme surmontés. Et c'est ça que moi, je suis comme... qui me pousse à avancer, parce que je me dis, genre, la seule chose que je peux comme fight back, mm-hmm. c'est de persévérer et montrer que, genre, en fait, c'est comme la vie, c'est comme un combat. Mm-hmm. Genre, la vie te donne deux coups, et la seule façon que toi aussi, tu peux le combattre, c'est en disant que, genre, en fait, même si tu me donnes ça, je peux me relever et je peux continuer. C'est la seule façon que nous aussi, on peut comme donner des coups aussi comme back, tu vois, comme mm-hmm. je veux dire. C'est ça.
Mais tu vois, juste là, comment tu parles, tu as 18 ans, là. On dirait que tu as vécu 1000 vies. Tu as vécu plus que ce que la plupart des gens vont vivre dans leur vie et dans un très jeune âge. Et moi, je te dis, je te lève mon chapeau, j'en perds les mots. Je ne sais même pas comment dire à quel point tu as une force incroyable qu'on ne voit vraiment pas souvent. Anouchka, c'est sûr que je vais te recevoir dans mon émission parce que ça a passé tellement vite. Mais tu as tellement de choses à nous transmettre. Ouais, ouais. Donc, c'est sûr que je vais te réinviter dans mon émission pour que tu viennes nous parler de comment
merci.
Tu traverses les épreuves et la vie. Alors, tout de suite après la pause, je vais recevoir Émilie Boyer, une autre belle jeune qui a participé à l'émission L'âge des possibles. À tout de suite.